Et donc, ça veut dire qu'on s'est quitté à la fin de Miketz, au moment où ça commence à devenir très critique, parce que Yosef, en fait, il voulait tester ses frères. Parce qu'évidemment, on a une question qui est que Yosef voulait que se réalisent les rêves. Or, la première partie du rêve s'est déjà réalisée. Ses frères sont venus, ils se sont prosternés devant lui. Pourquoi est-ce que Yosef ne s'est pas immédiatement révélé à ce moment-là? Alors l'explication qu'on donne en général, c'est que Yosef voulait, c'est Ramban par exemple qui l'explique comme ça aussi, que Yosef, il voulait tester ses frères quant à la raison pour laquelle il l'avait vendu comme esclave. Il voulait savoir est-ce que ils lui en voulaient à titre personnel, ou est-ce que c'était l'expression d'une haine des fils de Léa à l'égard des fils de Rachel? Les fils de Léa, bien sûr, ils n'étaient pas très contents de ce que Yaakov favorisait Rachel par rapport à Léa. Alors, il y avait déjà Réhouven qui avait fait ce qu'il a fait. Peut-être Yosef se demandait, est-ce que c'est pour ça qu'ils m'en ont voulu? Et donc il s'est dit, je vais faire un test. Le test, ce sera de voir si jamais Binyamin est en danger, est-ce qu'ils vont s'investir pour Binyamin, qui est l'autre enfant de Rachel? Ou est-ce qu'ils vont laisser tomber? Et donc il a monté tout le cinéma que nous on connaît, à savoir, on a mis la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Quand ils sont repartis à la deuxième fois, ils sont repartis, et puis ils ont été rattrapés par les soldats de Yosef qui leur ont dit: pourquoi est-ce que vous conduisez comme ça? Nous, on vous a bien reçu et voilà comment vous nous traitez, etc. Vous volez la coupe du roi, de Yosef. C'est une coupe très importante avec laquelle il fait quelque part la magie ou je sais pas, quelque chose de ce genre-là. Bon, bien sûr que les frères ont dit, mais on n'est pas des voleurs. Bien sûr qu'on n'a rien volé. Alors on les a pris, on les a ramenés, et puis ils ont été reçus, etc. Puis on les a mis en attente, on va voir. Et alors on a organisé la fouille des sacs. Bien entendu, on a organisé la fouille de telle sorte qu'on arrive à la fin, que Benjamin soit le dernier sac examiné. Donc on a fait monter la tension. Ruben, Shimon, Lévi. Alors les frères étaient constants, parfait. On n'a rien trouvé, on ne trouvera rien. On arrive sur Binyamin. Oh, et voilà, la coupe est dans le sac de Binyamin. Alors les frères eux-mêmes, ils sont aussi complètement atterrés. Mais d'une certaine manière, ils savent bien que toutes ces accusations et tout, ça tient pas debout. On n'est pas des voleurs, on va pas voler cette coupe. Mais d'un autre côté, ils se disent, comment ça se fait? Finalement, sa mère était aussi une voleuse. Parce que Rachel, elle avait volé les troufim de Lavan. Elle avait volé les pénates là, de Lavan pour empêcher Lavan de pouvoir les poursuivre très rapidement. Elle voulait gagner du temps. Oh, mais elle a quand même volé, quoi. Alors peut-être c'est un truc dans la famille, c'est... Alors, ils ont dit, bon voilà, on est tous tes esclaves, voilà. Tu nous as pris sur le fait. Alors Youssef a dit, pas du tout. Moi, je crains Elohim, je vais pas. Il y en a un qui est un voleur, celui-là, je le prends comme esclave, et vous, tranquillement, allez retourner chez votre père. Donc Youssef voulait savoir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Est-ce qu'ils vont abandonner Binyamin ou pas? Ou est-ce qu'ils vont être solidaires de Binyamin? Et la paracha qu'on étudie maintenant, Vaïgash, elle dit que voilà, Yehuda s'est approché et Yehuda, il a commencé à argumenter avec Yosef de façon assez violente, autant que faire se peut quand tu es un étranger devant le roi et qui a tout pouvoir, il peut faire n'importe quoi de toi. Et en même temps, les frères ont compris ça, que Yosef va pas céder. Finalement, Yosef va même, Yehuda va proposer à Yosef, il va lui dire, écoute, prends-moi comme esclave à la place de Binyamin, tu as tout à gagner, je suis beaucoup plus fort, voilà, je suis meilleur que lui comme esclave, prends-moi. Dans l'explication, ils ont aussi dit plusieurs fois qu'on est obligé de ramener Binyamin parce que si on ne ramène pas Binyamin, notre père, il va mourir. Ce que Yaakov avait vraiment dit d'ailleurs. Et Yosef, il s'est montré intraitable. Et alors, il a aussi entendu qu'entre eux, ils disaient, bon, on n'a pas d'autre solution, on va mettre l'Égypte à feu et à sang, on va commencer par le tuer lui, et après on ira jusqu'à tuer Paro s'il faut. C'est une bande de terroristes, je veux dire. Il y a deux d'entre eux qui ont déjà massacré complètement Shrem, toute une ville, ils ont tué parce qu'on avait pour Dina. Donc, en tout cas, entre eux, ils pensent qu'on va massacrer tout le monde. Et ils pensaient évidemment que Yosef ne comprenait pas, puisque Yosef, il avait mis entre eux et lui un traducteur, puisqu'il est censé être un Égyptien qui comprend pas l'hébreu des gens qui arrivent là, donc il y a un traducteur qui était un des fils de Yosef d'ailleurs. C'est Ménaché le traducteur. Donc il sait tout ce qu'ils sont en train de se dire, quoi. Et donc maintenant, il voit, là, la preuve est là, le test a fonctionné, ils ont passé le test, ils se sont investis pour lui, pour Binyamin. Donc maintenant, il va se révéler, il va leur dire qui il est, mais il se dit que quand ses frères vont prendre conscience que c'est lui, quoi. Ils vont avoir honte. Et Yosef ne veut pas que ses frères soient couverts de honte devant tous ces Égyptiens-là, parce que c'est Yosef, il a toute une cour autour de lui. Donc il y a plein d'Égyptiens. Alors il dit que sortez tout le monde. Et quand il fait ça, en réalité, il prend un grand risque, parce qu'il se retrouve lui tout seul. Et là-bas, il y a tous les frères. En un rien de temps, ils peuvent le tuer, puis c'est tout, quoi. Bon, il a pris ce risque-là. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui.
Michel.
C'est Michel qui, je sais pas qu'est-ce. Pourquoi il était déjà. Alors, bon, une fois que tout le monde est sorti, Vayomer Yosef Elechav, il a dit à ses frères, Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Veloyachlo Echav l'anot oto. Les frères, ils étaient, c'était plus stupéfaits, ils pouvaient pas répondre, ils étaient complètement, ils étaient KO. Nivralu mipanav, ils ont été complètement effrayés. En fait, quand on dit Nivralu mipanav, mais en même temps, tout a pris un sens. À la minute où il a dit qu'il était Yosef, alors tout prenait du sens. Le fait que plusieurs fois il les a fait asseoir autour de la table par ordre de naissance. Vous comprenez pas comment ce type-là, il nous fait attendre, comment il connaît l'ordre de la naissance. Il y avait toutes sortes de choses qui leur arrivaient, ils comprenaient rien du tout. Comment est-ce qu'un prince égyptien peut savoir, l'autre. En un moment, toutes les questions qu'ils avaient, pourquoi il nous a traités d'espions, pourquoi, etc., pourquoi il a fait descendre nos frères, etc., tout ça, ça prend. C'est comme un puzzle qui, brusquement, est illisible, quoi. Alors, la question qu'il leur a posée, est-ce que mon père est vivant? Ça n'a pas de sens. Quand ils sont arrivés, il a déjà demandé si le père était vivant. Plusieurs fois, il le demande toujours, est-ce que son père est vivant? Et cette question-là, est-ce que mon père est vivant, qu'il leur pose ici, c'est dans les arguments que vous avez fait valoir pour que je fasse grâce à Binyamin. Vous avez dit que si Binyamin ne revenait pas, notre père va mourir. Et il est en train de leur dire, vous saviez bien combien mon père était attaché à moi, et comme vous m'avez vendu, est-ce que vous avez tenu compte de la souffrance et du risque que vous preniez que mon père en meure? Et tout à coup, maintenant, vous qui n'avez pas du tout tenu compte de cela, vous voudriez que, vous vouliez que moi j'en tienne compte. Alors les Chazal disent que cette situation de honte où on ne sait plus quoi répondre et etc. C'est une situation qui va se présenter pour tout le monde à l'époque du Mashiach, quand on va être jugé et que tout va prendre sens, tout ce qui nous est arrivé. Y a plein de questions sur la trajectoire du peuple juif, durant toute son histoire, etc. Et tout ça va s'expliquer quand la vérité sera dévoilée. Et on sera aussi incapable de justifier toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Alors Yosef, qui a vu que, bon, en fait, il y a un midrash qui dit que quand Yosef a dit Ani Yosef, ils ont reculé, ils ont eu peur. Ils ont eu peur que, ok, je suis Yosef et maintenant je vais vous tuer, quoi. Vous vouliez me tuer, je vais vous tuer. Alors Yosef leur a dit, Vayomer Yosef el Echav, Gushuna Elai. Oui. Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, il leur redit, Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère, Asher Mechartem Oti Mitzrayma. Je suis votre frère que vous avez vendu en Égypte. Vous m'avez vendu comme esclave en Égypte. Cette phrase, elle est très étrange parce que Yosef, il est le roi à ce moment-là. Et il leur dit, rapprochez-vous de moi, Geshu na. Na, nun aleph, ça veut dire s'il vous plaît. Donc il les prie de se rapprocher. Ce n'est pas un langage du roi qui parle à des gens qui sont complètement dépendants de lui. Pourquoi il leur parle de cette manière-là? Rachid dit de pourquoi na? Pourquoi s'il vous plaît? Geshu, Elai, approchez-vous. Il est en position de donner des ordres et pas des demandes. Là, il leur demande bien vouloir. Rachid dit, Ra otam ne sogim lachor. Il a vu, comme je vous ai dit, ils ont reculé. Amar achshav achai nichlamim. Donc il s'est dit, voilà, maintenant mes frères, ils vont être couverts de honte. Karalaem belashon raka vetachanunim. Donc il leur parle. Belashon raka. Belashon rach, ça veut dire, il leur parle très, rach, ça veut dire, très tendrement. Et lashon tachanunim. Tachanunim, c'est les supplications. Tachanunim, c'est quand on, après la Shemoneh Esrei, le texte où on supplie Hachem. Il les supplie. Comment il leur supplie? Il les supplie. Le halter de Kelm, il avait posé la question, si vraiment l'intention de Yosef, c'était de les apaiser, de les tranquilliser, pour qu'ils n'aient pas trop honte en quelque sorte, alors pourquoi, dans la même phrase, il leur répète que, pourquoi il dit, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu en Égypte. Il leur dit les choses très, très dures, quoi. Je suis votre frère que vous avez vendu. Ça veut dire, malgré le fait que j'étais votre frère, etc., vous m'avez vendu en Égypte. Comment c'est possible, dans la même phrase, de dire sur un ton suppliant, je suis votre frère que vous avez vendu en Égypte. C'est très dur ce qu'il leur dit. C'est la vérité, mais c'est très dur de leur dire ça en face, comme ça. Et en même temps, la Shanta Hanounim. Alors lui-même, il a répondu qu'en fait, cette chose-là, le fait qu'il l'ait vendu, alors qu'il est leur frère, c'est quelque chose qui doit être, ça doit être dit, ça doit être, il faut le traiter, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Donc ça doit être dit à un moment ou à un autre. Et Yosef a pensé qu'il valait mieux tout dire à la fois. Après, on aura. Voilà, ça a été dit et c'est réglé. Et il va maintenant expliquer quelque chose qui, après avoir dit vous m'avez vendu, il va leur expliquer ce qui s'est passé. Il va leur expliquer comment lui ne leur en veut pas. Alors, Dieu, mais je ne vous en veux pas. Si ils pensent qu'ils ont été vendus par lui, il a été vendu par eux, comment est-ce qu'il peut ne pas leur en vouloir? C'est pas humain. Tu peux pas ne pas en vouloir à quelqu'un qui t'a vendu comme esclave alors que c'est ton frère qui t'a vendu comme esclave, tes frères. C'est très artificiel. Ça fait de Yosef un personnage tout à fait surhumain. Alors, c'est pas ça. Rachid dit, quand il leur a demandé de s'approcher, Era Lahem chez Omaoul. Il leur a montré qu'il était circoncis. Et pourquoi il leur a montré ça? Et maintenant, ils l'ont reconnu, ils savent que c'est Yosef. Ils savent bien que leur frère est Maoul. Qu'est-ce que ça apporte de plus de montrer qu'il est Maoul? On peut penser que la raison pour laquelle il leur a montré qu'il n'était pas Harel, je ne suis pas un vrai goy, je ne suis pas un goy, je suis pas un non circoncis, quelque part. C'est-à-dire, j'ai les midot, j'ai les qualités juives, en fait. Et je ne suis pas en colère contre vous. C'est pour ça qu'il leur parle doucement et il ne leur en veut pas. Vraiment, il leur en veut pas. Pourquoi? Parce que dans le verset 8, il dit, Ve'ata, et maintenant, Lo atem shlachtem oti hena. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim? C'est Elohim qui m'a envoyé. Vayasimeni, Elohim a fait de moi le Av le Paro. Je suis le patron de Paro. Bon, c'est en vérité Paro, il a le trône au-dessus, mais c'est moi qui gouverne l'Égypte. Je peux tout faire, je peux faire. J'ai une carte blanche. Donc en fait, je pourrais renverser Paro. Je peux pas devenir, je vous ai dit déjà, je crois, que quand Yosef a expliqué à Paro la semaine dernière, quand il lui a expliqué il fallait choisir quelqu'un qui allait gérer l'abondance qui naît des crues, par le biais des crues du Nil, qui assurait la Parnassa de toute l'Égypte, avant le barrage d'Assouan. En fait, il lui a dit effectivement, il faut gérer ça. Parce qu'il va falloir. Il va falloir faire en sorte qu'on se prépare pendant les 7 années d'abondance pour pouvoir tenir pendant les 7 années de famine. Donc, en d'autres termes, il va falloir faire des réserves, organiser un impôt pendant les 7 années en question, les 7 années d'abondance, et puis organiser un moyen de conservation du blé, etc. De telle sorte qu'on puisse seulement le manger pendant les 7 années de famine. Mais si Paro donnait cette charge à n'importe quel noble égyptien, noble en question, il va prendre le pouvoir. Tu lui donnes la carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Comme il a dit à Yosef, personne en Égypte ne lèvera le petit doigt, ou ne bougera une main ou un pied, si ce n'est que tu l'as permis. Si quelqu'un a un tel pouvoir sur l'Égypte, bah, il va renverser Paro, il va prendre la place. Donc, je te donne un conseil, mais ce conseil, tu ne peux pas l'appliquer. Sauf que si c'est moi que tu nommes, moi je suis un étranger, je suis un esclave, je ne peux pas devenir paro. Donc moi je ne te renverserai pas, parce que ce n'est pas mon intérêt. Je me contenterai d'avoir tout le pouvoir, mais je n'aurai pas besoin de siéger sur ton siège, je n'aurai pas besoin de devenir une divinité égyptienne comme l'est le paro. Et donc en fait, en disant ça, il a résolu le problème de Paro. Vous vous souvenez, le problème de Paro, c'est que il voulait être au-dessus du Nil. Et il se demandait, est-ce que je suis peut-être seulement celui qui gère la richesse fournie par le Nil? Donc l'idole, c'est le Nil, et moi je suis juste un intendant du Nil. Mais lui, il voulait être au-dessus, et c'est pour ça que quand dans son rêve, il s'est vu, j'étais au-dessus du Nil. Mais ça, il ne l'a jamais dit à ceux qui étaient censés interpréter son rêve. Parce qu'il ne pouvait pas dire ça en Égypte. Tout le monde aurait compris ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est de lèse-majesté par rapport au Nil qui était. Donc il se serait fait descendre, quoi. Donc il ne l'aura jamais dit. Mais Yosef, il lui a expliqué le rêve tel qu'il l'avait. Et donc il a compris que Yosef était en train de lui expliquer vraiment le rêve. Il savait très bien que Yosef avait donc un accès au rêve autre que d'en passer par lui. Donc il a bien compris que Yosef, il a été inspiré, que Hachem lui a soufflé, enfin lui a dit ce qu'il fallait dire, ce qui permettait de lui donner une solution. Tu vas nommer quelqu'un qui n'est pas toi, et donc toi, tu vas pouvoir te mettre au-dessus du Nil. L'intendant suivra. L'intendant, c'est bon, c'est le Nil, d'accord, il a besoin d'un intendant. Moi, je suis au-dessus. Donc, Yosef, à ce moment-là, il leur dit, je crois qu'on était là à ce moment-là. Il leur dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez envoyé là, c'est Elohim. Elohim a voulu que je sois au-dessus de Paro quasiment, que je sois Adon le Chol Beto, je suis le seigneur de toute sa maison. Bon, c'est même pas lui qui gère sa maison. Sa propre maison, c'est moi qui la gère. Et je suis Moshel, je suis le roi, le tyran sur tout le pays d'Égypte. Le Sforno, dans son commentaire, il dit sur la première partie, et maintenant, c'est pas vous qui m'avez envoyé. Iné, Birotchem tachlit Eloki. Shelo haya musag bezulat. Ele asibot hakodmot. En safek shehasibot hakodmot C'est-à-dire que Yosef a compris que toute cette histoire de la condamnation, puis de la vente de Yosef comme esclave en Égypte, il a compris qu'ils n'ont pas fait ça de leur propre volonté. Il savait que ses rêves, Yosef savait, que ses rêves étaient des rêves prophétiques. C'est pour ça que Yosef a considéré qu'il devait participer dans toute la mesure de son possible à la réalisation de ses rêves. Parce que, effectivement, ça c'est une leçon aussi sur ce qu'est la prophétie. Celui qui reçoit une prophétie, il reçoit des informations, mais d'une certaine manière, c'est comme si il reçoit un rôle à jouer par rapport à cette prophétie. C'est pas que tu donnes une information, c'est simplement que tu sais un peu plus tôt que les autres ce qui va se passer, mais toi, tu es spectateur comme tout le monde. Non. Le prophète, il se doit de travailler dans cette direction. C'est comme ça aussi qu'on peut comprendre pourquoi Rivka, qui savait par prophétie qui était Ésaü, pour ça qu'elle s'est occupée, elle a agi. C'est pas qu'elle était spectatrice de la situation. Elle a reçu une prophétie, du coup, elle l'a utilisée. La prophétie, elle a considéré qu'elle devait se mobiliser pour que ça marche. C'est pour ça qu'elle a pris Jacob, elle l'a déguisé, elle lui a dit, tu vas maintenant intervenir. Écoute ma voix, elle lui a dit. Tu m'écoutes. C'est une voix. C'est-à-dire, c'est pas, je te dis quelque chose et je suis ta mère, alors tu vas tenir compte de ce que je dis. Non, écoute ma voix, c'est un ordre. Ça veut dire un ordre. Ça veut dire, je suis une prophétesse et je te donne l'ordre de faire les choses. Et c'est pour ça que Hazal disent que Yaakov, quand il va faire ce que sa mère lui demande, il va chercher les chevreaux à l'étable, et il va les amener à sa mère, le préparer, le déguise, etc. Hazal disent, il fait tout ça en pleurant. Mais il veut pas le faire, il veut pas. Qu'est-ce que mon père, il va me toucher, il va me maudire, mon père. Elle lui dit, il fait ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'elle est prophétesse. Lui, Yosef, il a un rêve prophétique. Par conséquent, il s'agit de se mobiliser pour le faire advenir. Ok, mais c'est arrivé. C'est la question qu'on a posée au tout début. Pourquoi il s'est pas révélé tout de suite? Parce qu'il voulait encore faire un test.
Entre le rêve qu'a fait Joseph et le soupçon que c'est en train de se réaliser, mais c'est passé quand même.
Ah oui, alors bien sûr, mais il comprend que tout ce qui s'est passé nous amène là. Donc il se dit que tout le processus, Hachem a voulu que je sois ça. Et pour que j'arrive là, c'est Hachem qui a arrangé toutes les étapes. Et c'est pour ça qu'il leur dit, c'est pas vous qui m'avez vendu. Vous croyez que vous m'avez vendu, mais c'est pas vous qui m'avez vendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été une marionnette qu'Hachem a fait agir. Et c'est pour ça que j'ai aucune raison de vous en vouloir. Parce que vous-même, vous n'étiez pas vous-même quand vous avez fait ce que vous avez fait. Et on voit que c'est la même chose. Yosef, il devrait aussi en vouloir à son père de l'avoir envoyé au casse-pipe. Parce que quand son père l'a envoyé chez ses frères, il savait très bien la haine qu'il y avait chez les frères. Alors, peut-être qu'il savait pas qu'ils étaient prêts à le tuer, mais en tout cas, il savait bien qu'ils n'allaient pas le recevoir avec des guirlandes de roses. Hein. C'était pas. Faut pas oublier que quand ils l'ont vu de loin, ils ont lâché les chiens pour que les chiens le bouffent.
Que super, il ne savait pas ça, donc il y
Non,
a
alors
eu
c'est ça. Tout de suite, je vous explique. Oui. Oui, bien sûr. Parce que quand vous lisez ce que Jacob a dit à Yosef, il lui a dit qu'il devait aller le chercher, le Emek Hebron, dans la vallée de Hebron. Il n'y a pas de vallée, Frévron. Frévron, c'est sur une montagne. Ça n'a pas de sens de parler de la vallée de Frévron. C'est comme si tu disais, bon, toute proportion gardée, est-ce que vous allez dans la vallée de l'Everest? N'a pas de sens. Et de ce fait, ça veut dire que qu'est-ce que font Chazal avec avec cette vallée de Hébron, ce Emek Hébron, ils en font une dracha. Emek Hébron, ça veut dire, Emek, ça veut dire la profondeur, c'est-à-dire ce que je t'envoie faire en réalité, c'est faire en sorte que la profondeur de la prophétie qui a été donnée à Abraham dans Brit Ben Abtarim, où Hachem a dit que les Bnei Israël, enfin que les descendants d'Abraham seraient esclaves et qu'ils allaient souffrir dans un pays qui n'est pas à eux, et qu'après Hachem les ferait sortir de là et qu'ils sortiraient avec un grand butin, toute cette prophétie-là, voilà, je t'envoie pour que se réalise cette prophétie, la prophétie de celui qui, Hébron, ça veut dire, de celui qui est enterré à Hébron. Abraham est enterré dans Marpella, c'est-à-dire à Hébron. Emek, c'est-à-dire dans la profondeur de ce qui a été dit par Hachem à celui qui repose aujourd'hui en terre de Hébron. Donc le Emek, c'est la profondeur Et donc, évidemment que Yaakov, donc ça veut dire que quand Yaakov parle, il est lui aussi manipulé en quelque sorte. Et donc toute cette histoire qui est complètement folle, parce que Yaakov, il n'a rien à gagner, il n'a aucune information supplémentaire que Yosef pourrait lui ramener de la situation de ses frères, parce que les frères, toutes les semaines, il y a un autre des frères qui rentre chez son père et qui lui fait un rapport sur la façon dont eux ils se trouvent, comment ils vont eux, comment vont le troupeau. Toutes les semaines. Yosef, avec son aller-retour, il fera pas plus que ce que fait n'importe lequel de ses frères. Donc, ça donnera aucune information particulière à Yaakov. De toute manière, il verra ce qu'on va lui montrer, c'est tout. C'est pas qu'il va pouvoir voir des choses que, même si les frères cachent à leur père certaines choses, ils vont pas les montrer à Yosef, même s'il arrive là-bas. Même si tout s'était passé normalement. Donc, déjà Yaakov. Et on pourrait dire, peut-être que Yosef aurait peut-être, il aurait pu en vouloir à son père aussi. Son père qui l'a quand même envoyé là-bas se faire tuer, quoi. Et donc Yosef comprend que puisque visiblement, c'est un projet divin que je sois dans cette position-là de tellement haute en Égypte. Alors, ça veut dire que tout le processus était aussi un processus dirigé par Hachem. Donc, c'est pas vous qui m'avez vendu. Alors, en fait, il y a deux façons de, il y aurait deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, on voit de nouveau quelqu'un qui, c'est qui ça?
Une partie, mais
Une circulation de. Il y a, par exemple, chez le Ramchal, il explique qu'il y a deux Hanagot d'Hachem dans le monde. Il y a deux façons de gouverner le monde. Hachem peut gouverner le monde selon le principe de Sechar Ve'Onesh, c'est-à-dire de salaire et de sanction, récompense. C'est-à-dire un monde qui est gouverné par la conduite des hommes, en fait, en fonction de la conduite des hommes. Et puis, il y a une autre façon de gouverner le monde qui ne tient pas du tout compte de la conduite des hommes. Hachem a un projet, ce projet se réalise. Si vous voulez, le côté extraordinaire, C'est qu'Hachem fait en sorte que les deux anagotes, elles peuvent circuler ensemble. Par exemple, on pourrait penser que les frères étaient parfaitement libres de le condamner et de vouloir le vendre. C'est eux qui l'ont vendu, mais Hachem va utiliser ce que eux ont fait pour le mettre ça au service de son projet. Donc, il va faire coïncider la façon de. C'est les hommes qui décident, mais les hommes décident et après quelques jours, il va venir, il va. Ok, puisque je vais utiliser les choses que vous avez mises en marche, je vais leur donner une autre dimension, mais j'utilise ce que vous avez fait. Est-ce que Yosef dit, c'est pas du tout comme ça. Ici, en l'occurrence, il y a une parenthèse qui se joue. C'est comme si, depuis le moment où Yaakov a envoyé Yosef, jusqu'au moment où Yosef se dévoile ici, et peut-être même jusqu'à la fin de la royauté de Yosef, c'est une parenthèse durant laquelle les choses ne se gouvernent, ne sont que dirigées par le projet divin est en train de se réaliser et ça tient pas compte du tout de l'attitude des hommes. Ce que Yosef dit, vous n'y êtes pour rien. C'est pas Hachem a utilisé ce que vous avez fait pour le bien, mais vous vouliez le mal. Non, il n'y a pas, vous n'y étiez pour rien. C'est ça la remarque du Sforno. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut l'entendre quand il leur dit, je peux pas vous en vouloir. C'est pas que j'ai ma grandeur d'âme fait que je ne vous en veux pas. C'est que j'ai bien compris que vous n'y étiez pour rien. Pardon? Non, et bien sûr qu'ils ne se sont pas rendus compte. Eux, ils ont eu l'impression. C'est pour ça que eux, ils reculent parce qu'ils pensent, bon voilà, maintenant il est en position de se venger, il va nous massacrer. On a voulu le tuer, il va se venger. Et donc, ils reculent, mais il leur dit, mais pas du tout. Mais ça veut pas dire ma grandeur d'âme, c'est que je vais pas vous en vouloir. Du coup, puisqu'il ne leur en veut pas, il ne leur a jamais pardonné non plus. Puisque il n'y a pas lieu de pardonner, puisque vous y étiez pour rien. Il y a un rêve, je sais. Moi, j'avais entendu ça au nom de certains rabbins dont je ne connais pas le nom. Je me rappelle pas le nom, mais j'ai entendu que, après, j'ai entendu que M. Feinstein, il avait dit la même chose. Quelque chose d'assez dur. Vous connaissez à Kippour et à Tisha B'Av, on a un certain récit, le fameux récit de ce que ça commence Eles Kera, ça veut dire qui raconte ce qui est arrivé au Chachamim sous l'Empire romain. Bon, c'est un poème où on a mis dans le même poème toutes sortes de situations qui n'ont pas du tout eu lieu en même temps, mais tout ça a eu lieu sous la domination romaine. Ils ont tué beaucoup de Chachamim, torturé Rabbi Akiva, etc. Tout ce récit-là, qui est affreux, quoi. L'introduction, c'est l'empereur qui les convoque et qui leur demande quelle est la sanction de quelqu'un qui vend. Qui kidnappe quelqu'un, il le vend. Et il leur dit, et surtout, ne me racontez pas des salades. En d'autres termes, je sais très bien quelle est la sanction. N'est-ce pas? Le kidnapping et la vente de ce. C'est ça le vol qu'il y a dans les Aseret HaDibrot. Le vol qu'il y a dans les 10 commandements, ce n'est pas le vol d'un objet. C'est le vol d'une personne, c'est-à-dire c'est le kidnapping d'une personne. C'est pas que le vol est permis, mais le vol d'objets, il est dit ailleurs dans la Torah. Qu'on n'ait pas le droit de voler les objets, c'est dit ailleurs. Ici, on parle de voler des hommes, parce que toute la liste des cinq dernières, le tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, etc. Tout ça, c'est de ce côté-là, c'est toutes des peines de mort. Et on n'est pas passible de mort quand on vole. Mais on est passible de mort quand on vole un homme, on kidnappe quelqu'un. Oui, là, on est passible de mort. C'est de ça qu'on parle. Donc, il leur demande quelle est la sanction, et la sanction, c'est la mort. Alors, bon, ils leur disent, alors lui, il dit, eh bon, si j'avais devant moi les frères de Yosef qui l'ont vendu, je les mettrais à mort. Mais comme je ne les ai pas, ce que j'ai devant moi, c'est vous, et que vous êtes les descendants et les meilleurs représentants, etc. Ben, je vous applique à vous ces peines de mort. Une espèce d'explication de ce qui est arrivé est en fait la conséquence de la vente de Yosef par ses frères. Il va pas dans le sens ici de où on dit où Yosef dit mais je tiens pas compte du tout. C'est le regard extérieur. Si on n'a pas la lecture du Sforno, etc., la tentation, elle est quand même très grande de dire, ils ont voulu lui faire du mal, mais Hachem a corrigé en quelque sorte et de ce mal est sorti un bien. Donc ils ont voulu lui faire du mal. Et donc ils doivent être punis pour ça. Alors, on dit de M. Feinstein, il aurait dit que toutes les tsarot du peuple juif, elles viennent de cette histoire-là, mais elles viennent du fait que Yosef leur a jamais dit « Je vous pardonne ». Donc, quelque part, le clan d'Israël est toujours en train de payer une dette à l'égard de Yosef. C'est très fort et c'est très presque insoutenable, mais une source chassidique et Rav Feinstein aussi disent la même chose. Que quelque part, c'est vrai que jamais Yosef leur a dit les mots « Je vous pardonne ». C'est vrai qu'ils n'ont jamais demandé pardon directement. Donc cet échange-là, qui est très important, d'accord? Je te demande pardon et je te pardonne, ça n'a pas été fait. Donc c'est une espèce de truc qui reste en suspens et qui éventuellement s'actualise tout le temps, quoi, se réalise tout le temps. Il reste toujours, on n'a jamais fini de payer puisque ce qu'ils ont fait, c'est énorme, quoi. Énorme de chez énorme. Et il ne leur a pas pardonné. Alors, encore une fois, ça ne correspond pas à cette lecture, la lecture qu'on fait ici, mais... Pardon?
On pourrait considérer qu'il y a une période où en fait il ne voyait pas où il allait, du coup il aurait pu en vouloir à ses frères, et après quand il est en Égypte et qu'effectivement le succès gagne, et là il comprend ce qui se passe, et du coup là il n'en veut plus à ses frères, il pourrait y avoir ce.
Oui, mais il n'aura jamais pardonné. Même s'il comprend, même s'il a pensé que
Et
ce
du
qui
coup
lui
là.
arrivait, c'était bien les suites de ce que ses frères, mais que c'est ça qu'il dit. Quand il leur dit, Ata, maintenant je comprends tout. Moi-même, je comprends aussi tout ce qui m'est arrivé. Comment ça se fait que partout où je passe, tout ce que je touche réussit?
Donc, je ne vous en veux plus, mais je vous en dévoue.
Oui, mais même si je vous en ai voulu, mais je ne vous, bon, alors, ça voudrait dire, maintenant je comprends tout, mais donc, à la limite, je pourrais dire, ben, je vous pardonne parce que
Pas.
il y a une, c'est une bonne fin, en quelque sorte, c'est,
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est des sadiques qui sont morts sur
pardon?
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est des sadiques qui sont morts sur l'Empire romain? Ça va réparer les fautes
Lui, il dit, je vous fais payer. Mais bon, qui il est pour faire? Bon, il peut dire que je vous fais payer parce que moi je me mets. C'est les empereurs romains, ils se prenaient pour Dieu, donc Ils sont déifiés depuis Auguste. Ils s'imaginent qu'ils sont Dieu. Donc, je juge. Mais son jugement. Donc, c'est ça l'affaire, en fait. Alors effectivement, ce que Yosef dit, je suis là et c'est une situation très étrange. D'accord? Finalement, je suis, comme il dit, Ani Moshel Becholeretz Mitzrayim. Je règne sur toute l'Égypte. Je règne même sur la maison de Pharaon. Je suis même son patron, en quelque sorte. À la limite, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est moi qui je lui ai donné une solution pour qu'il soit pas simplement l'intendant qui gère la richesse fournie par le Nil. C'est une forme de domination de l'Égypte absolument faramineuse, quoi. Il y a rien, il y a Mais même par lui-même, il lui a dit, personne ne va bouger une main ou un pied si tu ne permets pas en Égypte. Et ça va continuer parce que, effectivement, quand il a annoncé qu'il y aurait ça, donc ça s'est su que il va y avoir cette année d'abondance et ensuite la même durée mais de famine. Donc les gens sont pas idiots, ils ont fait des réserves. Et Yosef, il a fait des réserves à l'échelle du pays tout entier, il a pris les 20%, il a mis tout le monde à 20%, il devait donner 20% de leur récolte à Paro, quoi, enfin, donc à Yosef. Et Yosef, il a installé des silos, etc. Et puis quand sont arrivées les années de famine, ben les gens sont allés voir les réserves qu'ils avaient faites. Tout avait pourri. Tout avait pourri. Donc ils n'avaient rien. C'est juste. Les silos de Yosef, ils n'ont pas pourri. Et donc, les gens sont venus chez Paro, enfin chez Yosef, ils ont dit, donne-nous à manger, on n'a pas de quoi manger. Alors il a dit, il faut payer. Ils ont dû payer pour que il leur redonne le blé qu'il leur avait piqué sous forme d'impôt. Tout ça, c'était pour augmenter la puissance de Paro. C'est pas, il mettait pas ça dans sa poche. Et puis petit à petit, ils n'avaient toujours pas d'argent, de moins en moins d'argent. Alors ils ont dû vendre leurs champs. Et donc Paro est devenu le propriétaire de l'Égypte, alors que jusque-là, probablement, il y avait, disons, ce qui serait l'équivalent des ducs, des comtes, des machins, etc. Chacun était à la tête. Bien sûr, il y avait un empereur au-dessus, mais les choses, eux, ils étaient propriétaires de leur territoire. Et puis après, ben, ils n'étaient plus propriétaires, c'est Paro qui est devenu propriétaire. Et puis après, il n'y avait toujours pas d'argent. Ils ont dû se vendre comme esclaves pour être nourris par Paro. Ces gens-là, Yosef, c'était pas leur copain. Et quand on va dire dans Parchat Shemot que il y a un nouveau roi sur l'Égypte et qu'il y a le mot nouveau interprété de deux manières possibles. C'est ou bien c'était vraiment un autre, c'est-à-dire en fait, en réalité, une autre dynastie, il y a plusieurs dynasties en Égypte, une autre dynastie qui voulait rien savoir et qui ne savait peut-être rien non plus de ce qui s'était passé sous la dynastie précédente, c'est-à-dire sous Yosef. Donc, quand on dit c'est un type qui connaissait pas Yosef, il le connaissait vraiment peut-être pas d'après ça. Ou alors on dit, il a changé d'avis. Et là, du coup, il y a Razal qui explique que c'est le même Paro, ou la même dynastie. Donc, ils savaient très bien combien, ce dont ils étaient, combien ils étaient redevables à Youssef qui avait sauvé l'Égypte quand même. Et quand les gens ont voulu réduire les Juifs en esclavage, etc., Paro s'était opposé. Il dit, on peut pas, on a de la reconnaissance à l'égard de Youssef, on peut pas leur faire ça. Mais les autres qui étaient furax contre Youssef, et donc par extension à la Hamane, c'est-à-dire on est furax contre un bonhomme, et ça s'étend à tout le peuple. Ils ont dit non. Et ils lui ont fait pression. Et le Midrash dit qu'ils ont dit à Paro, ou bien tu fais ce qu'on te demande de faire contre les Juifs, ou on te dégomme. Et lui, il a pensé qu'ils n'oseront jamais le faire. Donc il a pas signé les papiers. Mais ils l'ont dégommé. Le Midrash dit qu'il est revenu à quatre pattes quasiment, l'a supplié. Ok, remettez-moi, je ferai ce qu'il faut. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, il venait vérifier que Paro avait vraiment pris les décisions antisémites qu'eux avaient demandées. Et c'est pour ça que Nitratchouk Xerotav, il a changé d'avis. Il a changé d'avis parce que sinon ça lui coûtait le trône. Il ne voulait quand même pas perdre le trône. Donc, Yosef est au pouvoir. Bon, on nous raconte aussi sa rencontre avec Binyamin, son frère et tout. Alors, Yosef, les choses sont remonté jusqu'à Paro, et Paro a dit à Youssef, écoute, fais venir ton père, toute la famille, etc. Et c'est Paro lui-même qui a fourni des chariots pour faire descendre toute la famille de Yaakov. Et en fait, ces chariots-là, c'est lui qui les a fournis, mais c'est Youssef qui a envoyé à son père ces chariots. Un chariot, ça s'appelle Agalot. Et Agalot, c'est le même mot que Agalot, c'est comme une génisse. Et en fait, c'était un remèze pour son père, parce que la dernière chose qu'il avait apprise avec son père, c'était la de Egla Arufa, de la génisse dont on brise la nuque. Vous savez que quand on trouve un cadavre et qu'on n'a pas trouvé le meurtrier, alors il y a cette fameuse procédure où on va mesurer quelle est la ville la plus proche du cadavre. Et on va demander aux gens au tribunal. On prend seulement les villes qui ont un tribunal. Les villes qui ont cette ville la plus proche, on va demander aux anciens de la ville de venir et de prendre la responsabilité de ce cadavre. C'est-à-dire, ils vont venir, ils vont se laver les mains, etc. Ils vont dire, nos mains n'ont pas. Attendez, il y a le nouveau. Bon, c'est. Nos mains n'ont pas versé ce sang, c'est pas nous qui. En quelque sorte, il fallait que quelqu'un réponde. Et donc, il lui a fait savoir que c'était bien lui, quoi. Que quelque part, c'est pas quelqu'un, c'est pas une histoire qu'on lui raconte, que c'est Yosef, etc. Il sait que c'est lui, même, puisqu'il lui a expliqué ce que personne ne savait d'autre que Yosef et Yaakov. Et donc Yaakov, à son court défendant, finalement, bon, il a accepté de descendre en Égypte. Il pensait que c'était très provisoire. Et Yosef leur a dit, vous allez vous installer dans la province de Goshen. OK, et donc, bien sûr, il leur avait dit, il faut surtout aller installez-vous là-bas parce que là-bas, c'est une province de pâturage, etc. Et les Égyptiens, ils détestent toute cette histoire de berger, etc. Ils sont contre ça. Donc, ils viendront pas vous chercher là-bas, ils viendront pas vous. Donc, si vous restez là-bas, vous allez pouvoir vous développer sur les valeurs, vos valeurs, et sans que ce soit perturbé par les valeurs égyptiennes, dont Yosef savait très bien que c'était l'endroit le plus pourri du monde. Et donc, ces 70 personnes, en vérité, c'est-à-dire ils étaient 66, plus, etc., Yosef, ses fils, etc. Et avant de descendre en Égypte, Yaakov a envoyé et Yehuda shalach lefanav el Yosef, leorot lefanav goshna, veyavo u'artsa goshen. Donc Yaakov a envoyé Yehuda en avance auprès de Yosef pour arranger les choses, pour les installer en quelque sorte dans la province de Goshen. Il a envoyé avant lui le Fanav, Shalach, le Fanav. Et Rashi dit, Kodem Shiagi al-Sham. Il voulait que Yosef soit, que Yehuda soit sur place avant. Et le Midrash Haggadah dit Rashi, il dit, le horot le fanav, le takenlo bet Talmud, shemisham tetse hora'a. Il a envoyé Yehuda pour installer bet Talmud, c'est-à-dire un lieu d'étude, d'où allait sortir la halacha, qui allait le hora'a, donc le. La façon dont les Juifs doivent se conduire. Donc, on voit très bien que Yaakov, avant même d'arriver quelque part, il veut avoir déjà installé un endroit d'étude. De telle sorte que immédiatement quand ils arrivent, il y a tout de suite une yeshiva. Et on peut tout de suite s'installer, étudier. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Beit HaMidrash, on ne peut pas y aller. Donc, il n'y en a pas, j'en vois. Ça, c'est Yaakov. Pour que les Bnei Israël ne perdent pas leur identité, leur. Il faut qu'il puisse continuer d'étudier. Ici, c'est marqué que c'est Yehuda qui a installé les choses. Plus loin, on va expliquer que c'est Yehuda qui l'a installé, mais le Rosh Yeshiva, c'est Lévi. C'est pour ça, parce que Lévi était le Rosh Yeshiva, c'est pour ça que la tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui s'est souvenue, après tout le temps passé en Égypte, qui s'est souvenue des valeurs de la Torah. C'est pour ça qu'ils ont un statut à part. Et parce qu'ils étaient ceux qui étudiaient, ils étaient considérés comme des prêtres, etc. Donc les Égyptiens, ils ne les ont pas réduits, eux, en esclavage. Les Lévites, ils n'étaient pas esclaves. Et c'est ça qui a mis en place une certaine différence entre la tribu de Lévi et les autres. Une différence qui va se marquer aussi dans le fait que la seule tribu qui, en tant que tribu, n'est pas participée au veau d'or, c'est la tribu de Lévi. C'est pour ça que quand Moshe dit, après, quand il a mis de l'ordre, après l'histoire du veau d'or, il a dit, Mil Hashem Elai, que tous ceux qui sont pour Hashem viennent chez moi, ben, la tribu de Lévi est arrivée. Et quand il a fallu remplacer les Behorot, les premiers-nés, qui étaient eux les Kohanim à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, c'était les prorotes qui faisaient le travail de la Kehuna, de l'étude, etc. On a remplacé les prorotes par les gens de la tribu de Lévi. En fait, c'est intéressant parce que la province de Goshen, où il leur a dit d'aller s'installer. Cette province, c'est la province que Paro avait donnée à Sarah. Quand Paro avait kidnappé Sarah, et quand il l'a renvoyée, il lui a donné de l'argent, des cadeaux, etc., et il lui a donné une province. C'est la province de Goshen. Quelque part, c'est une façon de dire que les Bnei Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient un peu chez eux, tant qu'ils restaient à Goshen. Le désastre est venu parce que, évidemment, les Juifs, ils se sont répandus dans le pays et on les voyait partout. Et comme il y a eu une explosion démographique des Juifs, les Goïms, ils n'en pouvaient plus, quoi. Il y avait des Juifs partout. Voilà. C'est la République de Weimar, c'est toujours les mêmes problèmes. Alors au début, ils étaient la famille de celui qui a sauvé l'Égypte, alors bon, Kavod, tout ce que tu veux, mais petit à petit, et surtout si ils ont changé de dynastie, alors bon, ils n'avaient aucune obligation. La nouvelle dynastie, elle a considéré qu'elle n'avait aucune obligation de reconnaissance à l'égard de Yosef et de sa famille élargie. En fait, Yosef, quand il a fait descendre son père, il a pensé encore à son rêve, et dans son rêve, son père aussi se prosternait devant lui. Et donc Yosef, il a imaginé un stratagème pour que son père se prosterne devant lui, même sans savoir que c'est lui. Donc quand il a reçu son père, il l'a reçu au tout début avec les masques qu'on avait en Égypte, etc. Et il a pensé que Yaakov se tromperait, que il se prosternerait comme on se prosterne, on peut se prosterner devant un roi. Mais Yaakov s'est pas prosterné, ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il s'est pas prosterné. Paro aussi, il voulait absolument que tout le monde se prosterne devant lui, c'est-à-dire que la porte pour entrer chez Paro, c'était une porte où l'Égyptien moyen, il pouvait pas passer cette porte sans se courber devant lui. Certains disent que la porte s'est ouverte, hein, quand Yaakov est allé. Yaakov ne s'est pas prosterné non plus devant Paro. Donc la paracha va se terminer. On est toujours dans les années de famine. A priori, certains disent que quand Jacob est descendu en Égypte, la famine s'est arrêtée. Mais en fait, le passage qu'il dit dans le chapitre 47, verset 15, c'est marqué, Verte ma kesef, Meretz Mitzrayim ou Meretz Kenan. Il n'y avait plus d'argent, ni en Égypte, ni en Canaan. Et donc toute l'Égypte est arrivée chez Yosef en disant, Avalanu lechem, donne-nous à manger, Lamanamut negdecha, qui afas kesef. Afas, ça veut dire zéro. Rashi dit, c'est comme le Targoum, Shalim. C'est-à-dire, y a plus, on n'a plus un sou. Alors ils lui ont dit, ils ont dit à Yosef, alors knéotanu, achète-nous, vetadmatenu, avec nos terres, balechem, achète-nous, et c'est comme ça qu'on va payer pour avoir du pain, tu vas nous donner à manger, et tu nous achètes, nous et nos terres. On sera à Vadim le Paro, peut-être Zera Benichie Velonamut, Vadama Lotesha. Il donne-nous des semences pour qu'on puisse ensemencer. Et nous, on deviendra à Vadim de Paro. Et pour que la terre ne soit pas Lotesham, c'est Rachid dit Lotesh Mama. C'est-à-dire qu'en fait, que la terre soit complètement abîmée parce qu'on la laboure jamais, quoi. On n'a pas de quoi labourer parce qu'on n'a rien à semer. Donc comme ça, à ce moment-là, on arrive à la fin de cette paracha, dans la fin de la vie de Jacob en Égypte. Et la prochaine paracha, c'est, elle va nous raconter pratiquement la mort de Jacob. Et c'est la terminaison, en quelque sorte, du Sefer Bereshit, la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on aura mis en place tout ce qui va nous permettre de comprendre ce qui se fait, ce qui va se faire en Égypte. Si on n'a pas le Sefer Bereshit, on comprend rien à qu'est-ce qui se passe en Égypte, quoi. Pourquoi tout à coup ils sont esclaves, etc. Comment ça commence, cette histoire? Shemot, c'est la naissance du peuple. Mais il faut, pour comprendre ce qui se joue, on a besoin effectivement de tout ce que on a appris ici dans le qu'on va terminer d'apprendre et que qui viendra encore la semaine prochaine dans le Sefer Bereshit. Voilà, on va s'arrêter là.